Que le nom de Jésus soit béni. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs.
Faisons une lecture dans les Saintes Écritures et regardons dans l'Épître de Jacques une parole que l'apôtre donne destinée aux enfants de Dieu de son époque et qui ce matin va être utilisé pour servir autant de support à notre méditation, mais aussi d'entrer en matière pour que la parole de Dieu, qui va être maintenant partagée, véhiculée par le Saint-Esprit, fasse son travail en nous. Parce que vous comme moi, nous savons que, étant devenus des disciples de Jésus-Christ, le Maître Jésus-Christ connaît personnellement chacune de ses brebis, chacun de ses disciples, mais chacune de ses brebis en sa qualité de bon berger. Et ce matin, il va nous amener dans une direction qui concerne chacun d'entre nous. Aurions-nous 50 ans de conversion, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 1 an, on est tous par cette parole concernés ce matin. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs en Christ, c'est que le bon berger Jésus, il a la capacité non seulement de nous comprendre, mais il possède toujours les ingrédients nécessaires pour nous fortifier dans la foi, nous encourager quand le moment est venu, nous relever quand nous sommes abattus, nous exhorter dans le domaine eh bien, qui concerne la situation qui est la nôtre. Enfin, comme le bon samaritain qui est défini dans l'évangile de Luc, il a toujours avec lui de l'huile et du vin. Gloire à Dieu. Vous me direz, pasteur gentil, mais drôle de manière de partir en voyage. Moi, je ne pars en voyage, je ne pars pas avec de l'huile et du vin. La raison est simple, je ne suis pas le bon berger. Mais dans la transposition spirituelle, cela veut dire que Jésus arrive toujours au bon endroit, au bon moment. Et il a toujours les éléments qui conviennent pour les soins à approprier à celui qui en a besoin. As-tu besoin de soins ce matin de la part de Jésus? Alléluia. Moi, j'en ai besoin des soins de Jésus. J'ai besoin du soin du bon berger. Et il a la capacité de soigner autant mon âme, de soigner aussi mon corps. Et c'est pour cela que nous allons lire ce texte au travers duquel Dieu va nous amener sur le terrain de l'enseignement ce matin. Alors, quel texte, pasteur gentil? Épître de Jacques. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 6. Et je demande au frère de la technique s'il peut remettre, par rapport au cantique que nous venons de chanter, s'il peut remettre la troisième strophe. Sur l'écran, s'il te plaît, frère. Tu remets la troisième strophe du cantique que nous venons de chanter. Mets la troisième strophe sur l'écran, s'il te plaît. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 6, au même verset 5. Si quelqu'un d'entre vous, dites avec moi, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Il la demande avec foi, et l'apôtre rajoute sans douter. Il la demande avec foi, sans douter. Et puis il va prendre une image pour agrémenter la pensée. Car celui qui doute Dis avec moi. Est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il rajoute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et nous disons là, amen. Donc vous avez compris, frères et sœurs en Christ, on vient de chanter le cantique, « Viens mon âme te réclame ». Et le strophe 3, la troisième strophe du cantique, nous avons chanté ceci. « Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vaincre. » Donc le doute, frères et sœurs en Christ, c'est quelque chose auquel l'enfant de Dieu, vous, moi, peut être confronté. Et je n'ai même pas besoin de faire un sondage ce matin, puisque je vous ai dit en amont que tous, on y est confrontés, d'une manière ou d'une autre. Et puisque le Saint-Esprit ce matin a estimé utile nous conduire sur ce terrain-là, eh bien, il est bon que nous puissions d'emblée regarder quelle définition nous pourrions donner à ce mot, le doute. Parce que pour bien combattre une situation à laquelle je suis confronté, il faut bien que je sache ce qu'il y a derrière le mot, ou ce que le mot doute, ou ce que le doute peut apporter. Alors j'ai trouvé que derrière ce mot doute et la définition que nous pourrions y trouver, eh bien, il y a d'abord à considérer que dans l'étymologie, faisons un peu de grammaire, n'est-ce pas? Dans l'étymologie du mot doute, il y a la racine ou l'expression deux ou double. Écoutez, on ne joue pas la comédie, hein? Vous savez bien que le pasteur gentil, quand il reçoit de Jésus une direction, pour venir devant le peuple de Dieu et partager la pensée de l'Esprit, j'ai besoin de chercher maintenant derrière le mot quelle ouverture je peux retirer, non pas pour moi autant, mais aussi pour chacun d'entre nous, puisque c'est là que le Seigneur qui est le maître prend soin de nous enseigner. Alors, j'ai trouvé que derrière la racine du mot doute, ou dans l'étymologie du mot doute, il y a la racine 2. Ce qui me donne à considérer que derrière ce mot doute, il y a la pensée, l'idée d'une dualité. Il y a deux puissances. Une dualité qui, malheureusement, va se manifester dans la pensée et qui va me placer entre deux courants. Je suis divisé entre deux directions. Et dans cet aspect-là, je me retrouve comme dans une incapacité de décider pour l'une ou pour l'autre. C'est ça le doute. C'est un travail de division à l'intérieur, de séparation, et fort souvent, frères et sœurs en Christ, cela va laisser des traces ou ça aura des conséquences. Le doute va amener premièrement l'hésitation. Quand je doute, j'hésite. Cela va amener aussi une espèce de perplexité dans laquelle je vais me retrouver. Et la perplexité et l'hésitation vont produire en moi de l'incertitude. Ça va toujours? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Bien. Eh bien, on est avec Jésus. Et si le Saint-Esprit ce matin parle à l'Église sur ce petit mot, le doute, c'est parce que Dieu qui lit dans les cœurs sait, dans ce domaine-là, où chacun d'entre nous, nous sommes. Regardez avec moi. Un homme illustre dans les Saintes Écritures, qui avait reçu de la part de Dieu des promesses. Et le Saint-Esprit permet que l'apôtre reprenne un peu ce qui a été important dans sa vie, dans Romains, le chapitre 4, au verset 20. Romains 4, verset 20. Nous parle d'un homme de Dieu remarquable. Il a été défini comme étant le père des croyants et il a reçu des promesses de Dieu pour lui et pour sa femme Sarah. Et malgré son âge avancé, malgré le fait que Sarah n'était plus, dans une position pour mettre au monde des enfants, la Bible nous rapporte ce témoignage. J'ai dit Romains le chapitre 4, verset 18. Verset 18, j'avais dit verset 20, mais j'ai bien le droit de changer. Et si je change, c'est pour avoir plus d'ouverture, pour partager la pensée. La Bible nous dit que, même verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles... Alléluia. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, promesse. Et sans faiblir dans la foi, alléluia, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, lisez. Ah, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant. Alléluia. Donc, l'apôtre Jacques nous prend l'image de l'homme qui doute, qui est semblable au flot de la mer, agité par le vent d'un côté ou d'autre. Mais là, le Saint-Esprit prend le soin, à travers la bouche de l'apôtre, de nous montrer, comment fonctionne la foi. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas regardé à son corps déjà usé, ni à l'âge de Sarah, mais il a cru, comme Dieu voudrait que tu crois ce matin. Et si nous voulons aller plus loin dans la pensée, frères et sœurs en Christ, nous comprenons que le doute s'exprime par l'incrédulité et derrière cela, il y a toujours un moyen que le doute s'immisce entre une promesse que Dieu fait et l'accomplissement de la promesse. Surtout si elle tarde. Mais Dieu, il est Dieu. Vous savez comme moi qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il parle et elle s'accomplit. Les éléments extérieurs peuvent sembler montrer le contraire. Et puis nous savons que derrière le doute, il y a quelqu'un qui est toujours en action. Et si j'osais, je vous dirais que si un enfant de Dieu doute ce matin, le doute en lui-même, ce n'est pas nécessairement un péché. Le doute n'est pas un péché. Mais cela vient de deux sources. Fort souvent, le doute vient d'après ce que j'entends. Et obligatoirement, ça vient aussi d'après ce que mes yeux voient. Et si Dieu me fait une promesse, mon œil n'a pas le droit de me tromper. Ou plutôt, je reprends la pensée. Je n'ai pas le droit de laisser mon œil me tromper. Je n'ai pas le droit non plus de laisser mon oreille m'abuser. Même si ce que Dieu m'a dit n'est pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Alors, on y va. Donc, je viens de vous dire que le doute a une source. Et depuis la création du monde, frères et sœurs en Christ, celui qui engendre le doute n'est jamais inactif. Voulez-vous que nous allions dans la Genèse ? Allons dans la Genèse. Et regardons dans la Genèse où le doute a pris sa source. Genèse chapitre 3, verset 1er. Ne soyez pas étonnés que le Seigneur nous balade dans l'Écriture, hein ? Où voulez-vous qu'il nous balade ? Il nous fait nous promener dans sa parole. Et à chaque fois, il nous fait sortir de sa parole ce qui est important à comprendre, à saisir, pour qu'après l'enseignement de sa parole nous soit donné à bon escient. Alors j'ai dit Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus gentil de tous les animaux. Le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, regardez, hein, et notez, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous l'avez lu? Bien. Alors maintenant, comparons ce que elle vient de dire, et ce que Dieu avait dit plus haut, ou plus tôt, Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc il y a une différence qui arrive dans la déclaration de la femme et dans ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Mais Dieu n'a jamais dit, voilà. Donc, obligatoirement, frères et sœurs en Christ, quand le doute se manifeste, eh bien aussi se manifeste cette particularité de l'acceptation de ce que Dieu n'a pas dit. Quand le doute se manifeste, facilement on accepte ce que Dieu n'a pas dit. Mais, sans oublier de rajouter, et si on est prêt à accepter ce que Dieu n'a pas dit, mais le doute se manifeste aussi en rajoutant dans ce que Dieu a dit. Le doute se manifeste facilement, on accepte ce que Dieu n'a pas dit. Mais on est aussi capable, dans le doute, de rajouter dans ce qu'il a dit. C'est ce que la femme fait là. Mais oui, elle a rajouté dans ce que Dieu n'a pas dit. Frères et sœurs en Christ, lorsque le doute se manifeste, le doute n'est jamais sans conséquence. Et le doute produit toujours un résultat. Les yeux s'arrêtent sur l'obstacle, les oreilles sont affectées par la situation vécue ou entendue, et nos pensées et nos raisonnements se mettent au travail. Il y a un monsieur, pourtant c'est un homme illustre, un disciple de Jésus, qui portait même le titre d'apôtre. Lui aussi a vécu une expérience dans le doute assez particulière. Et c'est ce qui me donne à glorifier Jésus avec vous ce matin. Est-ce que vous voulez glorifier Jésus avec moi? Parce que lorsqu'on est confronté au doute et que nous commençons à nous enfoncer, Les choses commencent maintenant à devenir pesantes. Quand Jésus arrive, au lieu de nous écraser de sa sainteté, de nous faire des déclarations où nous éprouverions de la honte, puisque nous sommes en train de douter. Non, lorsqu'il prend les choses en main, il nous secoue à bon escient. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous connaissez l'apôtre Pierre. Bien, alors retrouvons l'apôtre Pierre dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 14, versets 22 à 33. Puis après l'apôtre Pierre, nous allons voir l'exemple principal du message au travers duquel Dieu va nous donner en quelque sorte comme des garanties quand, au moment où nous passons par le doute, pour nous donner le secours à bon escient. Il faut Félix qui les yeux pour moi. Alors, j'ai dit quoi? Aidez-moi. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après quoi, pasteur gentil? Aussitôt après la multiplication des pains. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Il était là seul. La barque, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Écoutez, moi je les comprends, hein. Ah, écoutez, moi, je les comprends. Déjà que je ne suis pas un nageur émérite, et si au milieu de la nuit, je vois quelqu'un qui marche sur les eaux, écoutez, ce n'était pas commun. C'est la seule fois dans les Saintes Écritures où Jésus va faire cela. Alors, je peux comprendre les disciples, mais allons plus loin. Alors, j'étais arrivé au verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi !» « N'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Déclaration et réponse de Jésus, Jésus lui dit, « Viens !» Jésus lui dit, « Viens !» Donc quand Jésus dit, « Viens !» toutes les conditions sont réunies pour que sa parole s'accomplisse. Et dans un premier temps, Pierre va en faire l'expérience. Écoutez, Jésus lui a dit, viens. Alors, il vient. Pierre sortit de la barque. Jusque-là, ça va. Et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça va toujours. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que les yeux, nos yeux, certes, ils nous servent à voir, mais quelquefois, ils nous servent aussi avec la vue, à entrer avec l'association de notre esprit, tout de suite dans une spéculation. On spécule. Mais voyant quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu, l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'il a vu? Le vent. Ça veut dire qu'il a détourné ses yeux de Jésus. Et lorsque je doute, obligatoirement, mes yeux se détournent de Jésus. Dès qu'il a vu le vent, nous sommes d'accord, c'est ça, hein? Il a vu le vent était fort, il eut, où était passée la parole de Jésus? Viens. La parole était toujours là, mais Pierre n'était plus dans la parole. Et si ce matin le doute a pris place dans ton cœur, c'est que tu n'es plus dans la parole de Jésus. Parce que la parole de Jésus ne fait jamais douter. mais produit son effet de l'assurance et des certitudes. Mais voyant que le vent était fort, ce que les oreilles entendent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Écoutez, quand tu t'enfonces, c'est pas la peine de... Tu n'as pas besoin qu'on te fasse ni de sermon, tu as besoin simplement qu'on te sorte de la situation dans laquelle tu te noies. Peut-être que ce matin, tu es aussi confronté au doute. Peut-être que ceux qui t'entourent ont commencé à te donner des leçons de morale, des leçons spirituelles, pour te montrer que tu n'as pas la foi. Ou dit toutes sortes de choses en conséquence par rapport à ce à quoi tu es confronté. Mais regardons Jésus. Regardez Jésus qui agit différemment de l'homme. Il a crié à Jésus, hein, nous avons lu, il a crié à Jésus. Il est en plein doute. Ses yeux sont arrêtés sur le vent souffle, ses oreilles ont entendu le bruit, la peur l'a saisi. Alors, puisque Jésus est là, béni soit Dieu, il crie, sauve-moi Seigneur. Et puis, l'expression qui arrive au verset 31, elle est significative. Lisez-le avec moi, s'il vous plaît. Ah! Aussitôt. Cela veut dire que derrière ce mot aussitôt, nous devons comprendre, avant qu'il ne s'enfonce, avant que les choses soient au pire, avant qu'il ne puisse maintenant avoir aucune réaction bénéfique ou de quelque autre que ce soit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Et là, c'est là que Jésus va lui parler. Jésus ne lui a pas dit espèce d'incrédule. Non. Jésus le saisit d'abord. Il va accomplir ce qui est convenable pour la circonstance. Et après, il va lui dire, comme il peut te dire ce matin, pourquoi ? Il tendit la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutes ? Je l'avais dit, il n'y a aucune raison que le doute s'empare de toi. La parole que je te donne vient, elle est pleinement suffisante. Et vous verrez bien que derrière le mot vient, il n'y a pas de grande déclaration. Jésus lui a dit simplement, viens. V-I-E-N-S. V-I-E-N-S. Un petit mot qui a 5 lettres. Viens! Ça suffit. Et vous verrez que Jésus n'a pas dit viens, mais viens. Non, simplement viens! Quelquefois, Jésus-Christ ne fait pas de grandes déclarations. Mais un mot qu'il me dit est pleinement suffisant. Parce que derrière le mot, je suis amené à regarder à celui qui dit le mot et à la capacité de celui qui dit le mot d'agir par rapport au mot qu'il a dit. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs en Christ, c'est la suite du récit. Donc Jésus a étendu la main, il a saisi l'apôtre. Et il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Et la Bible nous dit, verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Mais voici le résultat que cela produit. Ceux qui étaient dans la barque, dites avec moi, vinrent se prosterner et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Hallelujah. Frères et sœurs en Christ, regardez, les choses avaient mal commencé au début. L'apôtre Pierre a douté. Comme toi, tu peux être confronté au doute dans ta vie. Mais quand Jésus intervient, dans la finalité, il se prosterne. Il adore Jésus. Non seulement Pierre, mais ceux qui étaient dans la barque. Ça veut dire que Dieu peut, dans sa grâce, ce matin, permettre que toi, qui es confronté au doute, peut-être que tu es entré dans l'église avec le doute dans ton cœur, mais tu vas quitter le culte en terminant en adorant Dieu. Car il intervient pour te montrer que finalement, il n'y a aucune raison que tu laisses le doute s'emparer de ton cœur, ni d'Adam, ni d'Ève, l'expression humaine est employée, mais ce matin, je dirais simplement ni d'une manière ni d'une autre. Même si on est confronté, il ne faut pas laisser ça s'installer en nous. Le doute, c'est comme un corps étranger. Alléluia. Et puis, il y a un deuxième exemple. Pour conclure le partage de ce matin, il y a un deuxième exemple, mais avant de le voir, ce deuxième exemple, vous connaissez Jésus, notre Seigneur, Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et il y a un passage de l'Écriture qui nous est montré dans l'Évangile de Jean. C'est un moment particulier dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et nous comprendrons encore mieux pourquoi notre Seigneur, lorsque nous connaissons le doute, il est capable de nous soutenir à bon escient. Regardez avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 12, au verset 23. Jean 12, verset 23. Nous voyons notre Seigneur qui, dans une certaine circonstance, va faire une déclaration. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être, dites avec moi, glorifié. Et puis il va rajouter, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et puis le Seigneur ajoute, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et puis voici qu'à partir du verset 27, le langage change. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Que se passe-t-il dans le monde invisible? Que se passe-t-il dans le monde invisible? Il y a un combat qui est livré. Un combat est livré dans le monde invisible. La puissance du malin contre la puissance de Dieu se manifeste au travers de Jésus. Et la voix du Père se fait entendre. Une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Que se passe-t-il dans les lieux spirituels, dans le monde invisible? Eh bien, ce qui se produit ici n'est pas autre chose qu'une tentation que notre Seigneur éprouve. Et derrière cette tentation, l'ennemi voudrait infiltrer le doute dans l'esprit de notre maître. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas autre chose que le résultat produit par la venue de Grecs qui étaient venus pour adorer. Ce que nous donne l'Écriture, comme information un peu plus haut. Et ces Grecs vont dire à Philippe, avec insistance, nous voudrions voir, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe et André vont le dire à Jésus. Et c'est à cette occasion-là que Jésus fait la déclaration, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors que devons-nous comprendre? Le combat se livre dans les cieux. Et dans ce combat, Il est montré à Jésus, tu peux obtenir la gloire, mais sans la croix. Tu vois, des étrangers viennent pour toi. C'est des Grecs, hein. Ils sont venus pour adorer Dieu. Et ils ont avec insistance demandé à voir Jésus. Et l'ennemi va profiter de cela pour pouvoir amener une tentation, eh bien, à Jésus, la gloire. Tu vois, des hommes cherchent à te voir. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de passer par la croix. Donc Jésus va rectifier le tir tout de suite. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, c'est-à-dire qu'il se définit comme étant le grain de blé divin, par excellence, qui, pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits, vous, moi, et tous les enfants de Dieu de tous les siècles et de tous les temps, eh bien, maintenant, il doit mourir. Et notre Seigneur met en évidence l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix. Il a surmonté le moment particulier, il a crié au Père. Père, glorifie ton nom. Et le Père a répondu, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Alors, regardez avec moi maintenant le dernier exemple. Donc, on a vu notre Maître Jésus confronté à la tentation, et de cette tentation, il y a aussi le doute qui s'immisçait dans les lieux atmosphériques, dans les lieux, eh bien, dans le ciel, où le combat était mené, mais le Père a répondu. Matthieu 11, verset 1er. Va nous donner le dernier exemple à considérer pour conclure la méditation de ce matin. Et celui qui y est mentionné est un personnage illustre dans la Nouvelle Alliance. Et quoi qu'il soit un personnage illustre dans la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament avait prophétisé le concernant. Autant ce qu'il serait dans sa mission et une position prépondérante et particulière qui consistait à venir préparer le chemin devant Jésus. Et la Bible nous dit ceci dans Matthieu 11, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, autant d'éléments définissant l'œuvre de Dieu au travers de Jésus et le ministère qu'il est venu accomplir pour la gloire du Père. Et puis le Seigneur ajoute, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et puis comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, alléluia, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète.
C'est celui dont il a écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui concerne Jean-Baptiste et j'ai vu que le témoignage avait été rendu de lui avant même qu'il vienne au monde. Isaïe 40, verset 3, une prophétie était dit le concernant, « Voici, j'envoie mon messager devant toi, bien que Dieu soit béni. » Puis je regardais dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, au verset 5, et j'ai vu une autre déclaration qui le concerne et qui a un rapport justement avec le baptême, Matthieu 4, c'est ça, hein? Au verset 5. Alors, laissez-moi regarder. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est Matthieu 3. Matthieu 3, verset 23. Matthieu 3, verset 23. Oh, Matthieu 3, verset 13, pasteur. Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13. Allez, on y va. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, donc Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Voici la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc, Jean-Baptiste est allé, ou plutôt Jésus est allé pour être baptisé par Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Puis, plus tard, dans l'évangile de Jean, nous voyons que dans Jean 1, nous voyons que dans une certaine circonstance, Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis il va rajouter, c'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. En plus, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il mentionne après, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est bon. Regardez tous ce que l'Écriture rapporte. Et pourtant, dans une tranche de son existence, il a douté. Je dis que le doute peut atteindre n'importe qui, de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment. Alors pourquoi Jean-Baptiste, dans cette tranche de son existence, se met à douter, alors que tous ces témoignages, lorsque Jésus lui a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, parce que Jésus savait, en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, que le témoignage avait été donné, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter comme une colombe, celui qui baptise du Saint-Esprit. Et aussitôt que Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Il fallait que Jean le vive. Et il a vécu, et il en rend le témoignage. Alors comment se fait-il que dans la prison, il envoie dire, « Es-tu celui qui devait venir ?» Oh, papa. Frères et sœurs en Christ, le doute, quand il trouve un terrain propice, il ne regarde pas la tête. Il se manifeste. Il s'est manifesté dans Jean-Baptiste, malgré tout le témoignage qui est en amont. Mais moi, j'ai essayé de m'approcher de la situation que vivait Jean-Baptiste. Je dis, il faut souvent le doute arrive lorsque nos yeux s'arrêtent sur ce qu'il ne faut pas. Où était-il quand le doute l'a saisi? Où était-il? La prison. Quand il était dans le désert, il était mais dans le désert de Judée, il n'y avait pas de barrière. Il prêchait et le Saint-Esprit attirait la foule des gens de Judée qui venaient vers lui pour être baptisés dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Il n'y avait pas d'obstacle. Lorsqu'il a montré Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, une déclaration merveilleuse. Et nous comprenons pourquoi Jésus dit parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. Parce que tous les anciens prophètes avaient parlé de Jésus. Mais lui, il a montré Jésus. Le voici, ce qui avait été annoncé. Le voilà, alléluia. Il a montré Jésus. Donc il n'y avait aucune raison qu'il doute. Et pourtant, il a douté. Il a douté. Et lorsque ses disciples sont venus vers Jésus, parce qu'il n'en a pas fait de belles déclarations pour dire « Qu'est-ce que c'est que cet incrédule ?» Non. Il a dit « Il y a des rapportages dans ce que vous voyez. » Et ce que vous entendez. Les démons sont chassés, les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée, mais heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire que lorsque tu es dans le doute, la chute n'est pas loin. Mais c'est à ce moment-là que Jésus arrive. Jésus arrive et au lieu de t'écraser, au lieu de te juger, comme certains le font quand tu passes par un moment difficile, au lieu déjà d'avoir à ton égard des propos qui ne sont pas du tout glorieux, parce que tu vis une situation où le doute malheureusement s'est immiscé, Jésus est allé, il a commencé à rendre témoignage de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir? Est-ce que vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux? Non, Jean-Baptiste n'était pas vêtu d'habits précieux. Au contraire, quand vous le regardiez, sa compagnie n'était pas glorieuse. Il était habillé de vêtements de poils de chameau. Et le vêtement de poils de chameau pourrait être semblé repoussant pour le monde. Eh bien, ce matin, tu n'es pas Jean-Baptiste. Tu n'es pas habillé de vêtements de poils de chameau, mais Dieu a habillé ton âme de la justice de Jésus-Christ. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, vous dites, j'ai plus qu'un prophète. Parce que les anciens prophètes avaient parlé de Jésus. Mais lui, comme le dernier des prophètes, le dernier des grands prophètes, puisqu'il fait la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Regardez, il a montré celui qui avait été annoncé et il a rajouté qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas là l'ouverture de la nouvelle alliance où Dieu, dans sa grâce, va justifier le pécheur par la foi en vertu de l'œuvre de Jésus? Plus tard, il va dire, voilà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais voilà l'agneau de Dieu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper. Et pourtant, il a douté. Et puis Jésus va faire comme une comparaison entre ce qu'a été Jean-Baptiste et ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes ce matin, Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Béni soit Dieu. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit, Jésus n'a pas dit le plus grand, hein, le plus petit. Il dit, plus je suis petit à mes yeux, plus Dieu peut me faire rentrer dans la catégorie de ceux que lui voit comme grand, parce que je ne doute pas, parce que j'ai la foi dans les promesses. Et que ce matin, mon frère, ma soeur, les promesses du Seigneur remplissent son cœur. Car c'est les promesses de Jésus qui sont un anti-doute. Ah oui, quand les promesses s'installent en toi, le doute s'évacue, se dissipe, se dégage. Et ainsi, tu peux bénir ton Seigneur ce matin, le louer, le glorifier, que Dieu soit béni. J'ai fini la prédication. Amen. Que Dieu soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Oh, j'ai noté 1 Pierre 1, 8 à 13, mais vous le lirez chez vous, prions le Seigneur.